sport, c'est bon pour la santé.
Les carottes,
c'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir,
bouger, faire de l'exercice,
c'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon lundi également, bon début de semaine. Marianne Paquette qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. 64 000, c'est le nombre de jeunes Québécois qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Différents défis de vie, différents besoins, dont certains assez importants en matière de saines habitudes de vie, mais en raison d'obstacles, de manque d'accessibilité, de manque de moyens financiers, de programmes adaptés, ben, ces jeunes-là semblent pas ou peu touchés par l'ensemble des initiatives que la société, que les écoles font en matière de saines habitudes de vie. Il y a tout de même une initiative qui existe, le projet Choisir de gagner, qui vise à la promotion de saines habitudes de vie pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. J'en parle avec son directeur, Pierre Morin. Mais en première partie d'émission, c'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui débutait hier. Et j'avais envie de vous offrir une petite technique toute simple, hyper accessible, autant pour les enfants, pour les personnes âgées, gratuite, que vous pouvez faire en auto, au centre commercial, au boulot, qui vise à apprendre à baisser votre taux d'anxiété, de stress, à diminuer des symptômes, que ce soit des troubles de comportement, d'adaptation, de troubles du comportement, la cohérence cardiaque. Oui, la cohérence cardiaque. J'en parle avec Jessie Riel, elle, intervenante en santé mentale à l'ALPABEM. Bonjour Jessie.
Bonjour Marianne. Merci de nous recevoir dans le cadre de la semaine de sensibilisation.
Ben, ça fait plaisir. J'en parlais justement. Semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Et c'est une belle façon de parler de comment, et c'est possible de le faire, de comment on peut, par des moyens tout simples, baisser notre niveau de stress, d'anxiété, de gérer certains symptômes liés à différents troubles. La cohérence cardiaque, c'est hyper accessible. Une technique qui est tout de même assez nouvelle. On commence à en parler davantage, mais ça vient d'où la cohérence cardiaque, Jessie?
La cohérence cardiaque, ça a été découvert dans les années 90, mais ça avait d'autres objectifs que celle de diminuer le stress. Dans le fond, ça a été découvert par l'intermédiaire de leur objectif principal. Malheureusement, j'ai un blanc à ce niveau. Mais je vous dirais que c'est ça, c'est assez récent, là, depuis une dizaine d'années que c'est pratiqué vraiment pour diminuer le stress, avoir un meilleur contrôle sur notre stress et diminuer notre état d'anxiété.
Mais ça a plein d'autres bénéfices. On parlait davantage des bénéfices psychologiques, mais il y en a aussi au point de vue physique. On parle de prévenir les maladies cardiovasculaires. D'abord, c'était le premier objectif. Diminuer aussi l'hypertension, l'asthme, en fait, de prévenir plus que diminuer même. C'est un petit trésor caché, la cohérence cardiaque. Ça consiste à quoi, plus clairement, Jessie? Jessie Riel, vous êtes là? Oh, Jessie.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Bien, on ne vous entendait plus, okay. Mais là, vous êtes de retour. Est-ce que vous avez entendu ma question, Jessie?
Oui, je l'ai entendue. Donc, c'est ça, c'est une technique de respiration très simple, de 5 minutes environ. On recommande de le faire 3 fois par jour, mais ça consiste à prendre des inspirations et des expirations d'environ 5 secondes, donc pour diminuer notre rythme respiratoire. Donc, on fait ça pendant 5 minutes, puis ça vise à atteindre un état de cohérence entre notre rythme respiratoire, et notre rythme cardiaque.
Donc, c'est une façon de synchroniser nos battements de cœur et notre respiration, que tout ça soit en harmonie.
Exactement. On y parvient naturellement à cet état-là lorsqu'on vit des émotions positives intenses, mais c'est pas, ça ne fait pas partie de notre quotidien là, de vivre sous l'état de cohérence cardiaque.
Mais comment ça se fait que c'est si difficile à atteindre?
Il faut vraiment se concentrer et avoir une bonne respiration. Il faut prendre le temps de le faire parce qu'avec tous les éléments stressants de notre vie, on respire de façon beaucoup plus rapide. Normalement, on a un cycle d'environ 12 à 20 respirations par minute. Donc, cycle complet d'inspiration et d'expiration. Donc, ça nous demande vraiment de s'asseoir et d'y penser et de pratiquer ces techniques de respiration-là qui ont des effets positifs pour environ 4 heures par la suite.
Et c'est pour ça qu'il est recommandé d'exercer la cohérence cardiaque 3 fois par jour.
Oui, exactement. Donc, on peut débuter notre journée en faisant ça le matin. Puis, par la suite, comme que c'est aux 4 heures, eh bien, on peut le faire au repas. Je peux vous suggérer de mettre des alertes, par exemple, sur vos téléphones pour bien développer ce réflexe-là. Puis, bien sûr, de s'obliger à le faire.
Oui.
Pour développer notre habitude.
Oui, et bon, d'être discipliné également.
Oui, c'est ça.
Je disais tout à l'heure, et peut-être que, en fait, c'était une erreur de ma part, Jessie, est-ce qu'on peut faire ça dans l'auto, au centre commercial, au boulot, où il y a vraiment des moments qui sont plus adéquats ou des lieux peut-être également plus appropriés?
Les techniques de respiration peuvent être faites un peu n'importe où. C'est pas très exigeant, mais c'est préférable de faire la cohérence cardiaque, de pratiquer ça lorsqu'on est plus calme pour parvenir plus facilement à atteindre l'état de cohérence, justement. Parce que si on est en train de faire une activité très demandante, bien, ça va être beaucoup plus exigeant pour nous d'y parvenir, en fait.
Mm-hmm. C'est accessible pour les enfants?
Oui, ça peut être accessible pour les enfants. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Donc, la respiration, c'est pas très compliqué. C'est juste, comme vous dites, d'être discipliné et de bien la pratiquer.
Oui, Jessie, pardonnez-moi.
Oui.
Continue.
Bien, j'allais dire, pour s'aider, il y a différents guides respiratoires qu'on peut utiliser. Donc, il y en a qu'on peut télécharger sur nos téléphones intelligents ou sur les tablettes également. Puis aussi sur Internet, sur YouTube ou sur différents sites web, on peut en trouver facilement pour nous guider.
Donc, il suffit simplement d'inscrire cohérence cardiaque et on trouvera une panoplie d'informations. Ce sont de bonnes ressources. Est-ce que vous en avez à nous conseiller plus spécifiquement?
Oui, je pourrais vous suggérer, il y a un livre écrit par David O'Hare qui est « Cohérence cardiaque 365 », puis c'est également le fondateur du site cohérencecardiaque.ca. Donc, ce sont vraiment de très bonnes ressources fiables, si vous voulez, pour vous être outillé et guidé dans cette pratique-là.
Mm-hmm.
Puis, il y a écrit également différents livres par rapport aux bénéfices de la cohérence cardiaque. Donc, également maigrir par la cohérence cardiaque.
C'est quoi la différence, Jessie, entre la cohérence cardiaque et d'autres méthodes où la respiration est associée? Je pense, entre autres, à la méditation, relaxation ou yoga, qui sont également très en vogue en ce moment, à l'ère où il faut se calmer un petit peu et apprendre à se relaxer ou à baisser notre niveau d'anxiété.
La différence consiste au fait que quand on pratique la cohérence cardiaque, ça conserve notre niveau d'énergie tout en nous gardant alerte à notre environnement. Comparativement à différentes techniques de relaxation, mm-hmm. Où ce que celles-ci vont parfois diminuer notre vigilance et notre énergie. Ils vont vraiment nous transposer dans un autre état. Tandis qu'avec la cohérence cardiaque, on conserve notre énergie, puis on reste apte, par exemple, à notre travail ou à ce qui nous entoure. Là, on reste alerte à tout ça.
Ça nous réénergise, finalement.
Aussi, oui.
Ben, Jessie Ayel, c'était très, très intéressant et je veux souligner que vous avez signé un article sur la cohérence cardiaque, un réflexe à développer. C'est dans la revue Oxygène qui est publiée par l'organisme où vous travaillez, l'Alpabem à Laval, donc www.alpabemqc.ca. On glissera le lien sur notre site si les gens ont envie de consulter cet article qui était fort éclairant, fort intéressant et signé par vous qui êtes intervenante du côté de cet organisme-là. Merci beaucoup, Jessie Ayel. Ça a été un plaisir de vous parler.
Ça me fait plaisir, puis je vous rappelle que cette semaine, on avait plusieurs conférences organisées à la Cité de la Santé, donc si ça intéresse la population, bien, vous pouvez vous référer à notre site Internet pour la programmation.
www.alpabem.qc.ca. Merci beaucoup, Jessie.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Selon une étude réalisée par Extenso en 2012, les jeunes ayant une limitation fonctionnelle ont moins de plaisir à aller à l'école que les jeunes qui n'en ont pas. Ils sont aussi moins enclins à adopter un mode de vie actif, une saine alimentation, sont souvent exclus des programmes, des activités mises en place. Mais il y a moyen de contrer ça. Il y a le projet Choisir de gagner, qui est une initiative du défi sportif Altergo et qui a comme mission, comme objectif de promouvoir auprès des jeunes Québécois et de leur famille, ça c'est important, de leur famille, de tout adulte signifiant qui les entoure, de saines habitudes de vie par le biais d'activités physiques et bien sûr de la promotion d'une saine alimentation. Pour nous en parler, Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner. Bonjour, Monsieur Morin.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là. Je lisais en me préparant à cette rencontre, et je le disais d'ailleurs en introduction à l'émission, on parle de 64 000 jeunes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Dans le cadre du projet Choisir de gagner et qui soutient également le défi sportif Altergo, vous touchez 4 200 jeunes, ce qui est énorme. Mais il en manque plusieurs qui sont pas, en tout cas du moins, qui ne participent pas au défi Altergo. Vous tentez du moins de les rejoindre par le projet Choisir de gagner.
Mais c'est l'idée même du projet. C'est qu'on se disait à l'origine du projet qu'on ne pourrait jamais réussir à rejoindre au défi l'ensemble des jeunes qui vivent avec limitation fonctionnelle au Québec. Si on parle de 104 000 qui ont une limitation fonctionnelle, on parle d'environ 17 % de la clientèle scolaire qui est dans une situation particulière. Donc, comment on pouvait rejoindre ces jeunes-là? Et notre projet, originalement, c'était de travailler avec des réseaux de support étudiants pour faire en sorte que chacun des jeunes, peu importe l'école où ils étaient, où il est au Québec, pouvait au moins s'inscrire dans un cheminement sportif. Alors ça, c'est l'idée de base. À partir de là, est venue la bonne idée, lorsqu'on a travaillé le projet avec les gens de Québec en forme, d'inclure aussi la dynamique du mode de vie actif, la dynamique de saine alimentation, qui sont les saines habitudes de vie dont ils font la promotion. Alors, à partir de là, on a mis en branle le projet, puis au-delà des 4200 jeunes qui viennent participer à la grande fête qui est le défi sportif Altergo qui se déroule à la fin du mois d'avril, oui. C'est beaucoup plus l'ensemble des autres jeunes qui participent aux événements de préparation, c'est aussi les autres qui viennent nous visiter, et c'est tous ceux qui rêvent de venir au défi puis qui s'entraînent en conséquence.
Oui.
Puis,
oui.
Bien, ceux qu'on rejoint maintenant sur la Côte-Nord ou en Montérégie ou dans la région de la Mauricie à travers nos projets.
Et c'est aussi des adultes comme moi que vous faites rêver par cet événement qui est unique en son genre et tout à fait formidable. Je tiens à le souligner, M. Morin. Ça partit comment, ce constat-là, de se dire, OK, ces jeunes-là, il n'y a pas de service. On a de la difficulté à les inclure dans les activités sportives. On se rend compte qu'il y a plus de prévalence point de vue obésité. Et ça se poursuit, bien sûr, à l'âge adulte. Et il faut agir, il faut faire quelque chose.
On ne dit pas qu'il n'y a pas d'activité, on dit qu'il pourrait en avoir plus, cependant. Mmh. On ne dit pas que les jeunes ne sont pas joints parce qu'il y a du travail formidable qui se fait dans chacune des régions, par les centres de réadaptation, par les écoles spécialisées. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à travers, dans ce qu'on appelle, nous, le mouvement des saines habitudes de vie, il n'y a pas vraiment d'initiative, il n'y a pas de programme qui vise spécifiquement les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Comme si, à la limite, puis je me permets un gros mot aussi, comme s'ils n'existaient pas dans ce réseau-là. Alors, on fait œuvre de sensibilisation auprès du réseau de Québec en forme, auprès de l'ensemble de leurs partenaires qui interviennent au niveau local pour dire, lorsque vous mettez en place des programmes qui visent l'adoption de saines habitudes de vie par les jeunes, pourquoi ne pas aussi penser à inclure ou éviter d'exclure les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle? C'est beaucoup plus ça. Donc, il y a plusieurs initiatives qui rejoignent les jeunes, comme par exemple, je pense au Grand Défi Perd la Voix qui a fait un travail merveilleux là-dessus. Mais au-delà de ça, comment on fait dans chacun des milieux, dans chacune des écoles, dans chacun des centres de loisirs, de s'assurer que les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle puissent aussi participer? C'est ça qui est notre propos.
C'est quoi le portrait de ces jeunes-là, vous qui, par le biais du projet Choisir de gagner, vous êtes un peu promené partout en province, parce qu'il y en a partout des jeunes qui vivent avec une limitation. Quand on parle de 64 000, c'est qu'ils sont autant à Montréal qu'à Baie-Comeau. En lien avec leur santé, leurs habitudes de vie, leurs préoccupations, qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Bien, nous, ce qui nous a particulièrement touchés, c'est quand on a vu la statistique qui dit qu'à l'âge adulte, la prévalence du taux d'obésité, la prévalence des diabètes de type 2 ou des problèmes de dépression, c'était 4 fois celui du reste de la population.
Mm-hmm.
Alors, on s'est dit, il faut absolument intervenir dès le plus jeune âge, dans la même façon qu'on le fait avec les autres jeunes, pour que les jeunes de limitation fonctionnelle puissent adopter de saines habitudes de vie, que grâce aux activités de loisirs ou grâce au sport ou grâce à un mode de vie actif qui ait les mêmes bienfaits que les autres jeunes rencontrent. On sait déjà qu'on est dans une période où on dit tout le temps, la génération des jeunes qu'on a actuellement va mourir plus jeune que la précédente à cause du temps d'écran, de l'inactivité, tout ça.
L'obésité, le diabète.
Donc, des problèmes d'obésité, diabète. Mais chez les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle à l'âge adulte, ce sera 4 fois ce taux-là. Alors, pour nous, c'est important de faire comprendre aux jeunes qui ont une limitation, « Hey, c'est pour toi aussi les saines habitudes de vie », même si on ne présentera pas ça en saines habitudes de vie, parce qu'il n'y a rien de moins gagnant que ça.
Mais ça ne parle peut-être pas pour un jeune de 10 ans, 12 ans.
Puis je vous dirais que quand je parle de saines habitudes de vie, même à des intervenants, on me regarde en disant, « Oh my God, ça a l'air plate, cette histoire-là. » Alors nous, on aime mieux dire « Bougez plus, mangez mieux, être actif, profiter de la vie, aller au bout de son potentiel. » C'est ça qu'on veut. C'est au-delà des problèmes de santé qu'on peut rencontrer ou des problèmes de santé publique que ça pourrait provoquer plus tard. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est faire en sorte que chacun des jeunes puisse aller au bout de son potentiel, puisse découvrir des choses qu'il peut faire, se valoriser, découvrir le plaisir, aimer la vie.
Oui. D'ailleurs, ces jeunes-là, ils ont envie d'être actifs, ils ont envie de bouger, d'exercer un sport tout comme tous les autres amis dans la cour d'école. Et en plus, on voit les répercussions de la pratique d'un sport dans l'inclusion, dans l'optimisme, dans le désir d'aller à l'école. Hein. Je le disais, c'était effarant et c'est triste, cette étude en 2012 d'Extenso qui démontrait que les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle ont moins de plaisir à aller à l'école.
Et c'est triste qu'encore aujourd'hui, on vive ça. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans le milieu du sport du loisir pour permettre à l'ensemble des jeunes, peu importe son type de limitation, peu importe son origine culturelle, peu importe son quartier, peu importe son statut économique, pour faire en sorte qu'ils découvrent à travers le sport et le loisir les bienfaits, qu'ils puissent en profiter. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est que particulièrement chez les jeunes de limitation fonctionnelle, à part le travail qui a été fait par certaines organisations au Québec, puis on les connaît toutes, je parle pas juste du défi, mais je parle des centres de réadaptation, je pense des associations régionales de loisirs, il faut aller plus loin, il faut pouvoir les rejoindre, donner à chacun de ces jeunes-là la possibilité de se rendre jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, souvent, ça passe par le fait simplement qu'il n'y a pas de structure d'accueil, souvent parce que les gens ne savent pas comment faire. Souvent, c'est clair, c'est un manque de ressources, on le comprend bien, mais si on ne confronte pas le problème, ces jeunes-là vont continuer à être isolés, vont continuer à avoir des problèmes de dépression à l'âge adulte. Ils n'auront pas eu l'opportunité d'aller au bout de ce qu'ils sont.
Et on fait comment pour les rejoindre autant? On peut penser qu'à Montréal, en grande région métropolitaine, c'est plus simple. Mais comment on fait pour les rejoindre autant ici qu'en région? Est-ce qu'on se déplace? Vous allez rencontrer les écoles, les directions des écoles pour proposer des alternatives, des projets, des activités. Comment ça se passe?
En fait, on a développé dans les premières années du projet, ça fait déjà 2 ans et demi que le projet est en place, on a passé notre temps à développer des outils pour faire une différence. Maintenant, on est rendu au point de déployer le projet. Alors, on le déploie à travers plusieurs réseaux. on l'a déployé à travers le réseau des centres de réadaptation. Par exemple, dans deux semaines, il y a une expérience qui se fait sur la Côte-Nord où, à partir du centre de réadaptation, on a mis à contribution la commission scolaire, l'association régionale, les regroupements locaux de Québec en forme et surtout les écoles, naturellement, pour rejoindre l'ensemble des jeunes de la Côte-Nord, quand même pas rien, là, dans la région autour de Baie-Comeau, pour créer un événement de sensibilisation. Ça, c'est une des premières façons. On joint aussi à travers le réseau des associations régionales de loisirs, à travers le réseau du réseau du sport étudiant, qui était l'origine même du projet, et avec lesquels on réussit maintenant à organiser des compétitions spécifiques pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Et ça fonctionne bien dans certaines régions. Et on passe aussi à travers le réseau de Québec en forme, qui, pour les deux prochaines années, en tout cas, va nous soutenir, a décidé de nous soutenir pour faire en sorte que l'ensemble du réseau soit mis à contribution pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle.
Donc, ça se passe beaucoup par les écoles.
Ça se passe et par les écoles et par les organisations qui peuvent rejoindre directement les jeunes en saines habitudes de vie.
Et les parents dans tout ça, parce qu'on le sait, on l'observe. Et quand on y réfléchit deux secondes, ça semble assez évident. Les parents qui ont un impact très important, ne serait-ce que dans ce qu'il y a dans l'assiette chez l'enfant, dans les loisirs après l'école, qu'est-ce qu'on fait comme activité sportive la fin de semaine? On les rejoint comment, les parents?
Nous, ce qu'on entend des parents, c'est « Offrez-nous des opportunités, on va être là. » Même si pour eux, c'est encore plus difficile. Parce que les parents d'enfants qui ont une limitation fonctionnelle vivent les mêmes contraintes que les autres, multipliées ou exponentiellement, je dirais, plus difficiles. Mais nonobstant ça, sont très au clair sur l'importance que peuvent avoir ces activités-là pour les jeunes. Alors, comment on les rejoint? À travers le réseau des écoles, à travers notre site Internet qu'on est en train de développer pour faire en sorte qu'ils puissent disposer des outils pour faire une différence, en le faisant connaître les ressources qu'il y a dans leur milieu. Mais c'est clair que pour nous, un des aspects les plus importants de notre projet, et vous avez bien raison de le mentionner, c'est comment on fait pour rejoindre les parents à travers les écoles, à travers notre site. À la limite, on ne peut pas les joindre directement personnellement parce que, naturellement, on n'a pas les adresses de tout le monde. Mais je pense que si on avait la possibilité, on le ferait.
Ça ferait beaucoup de familles à appeler aussi.
Oui, mais on comprend aussi que c'est beaucoup de familles qui ont besoin de services.
Ouais.
C'est beaucoup de familles qui veulent que leurs enfants aient les mêmes opportunités. Puis pour une Chantal Petitclerc, par exemple, qui a eu des parents extraordinaires qui l'ont soutenue, il y en a plusieurs qui n'auraient même pas su par où commencer, auraient été mis en face de la situation, puis n'auraient peut-être pas pu aller plus loin.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Pierre Morin, parce que vous parlez des parents, vous faites ce parallèle avec Chantal Petitclerc. Il y a Lizzie Legg Patuelli, qui est également votre porte-parole, qui est un danseur de breakdance formidable, qui est reconnu à l'international partout dans le monde, qui vit avec une limitation fonctionnelle également, Luca, et qui, il a eu des parents extrêmement encadrants qui ne l'ont jamais empêché de rien faire de par son handicap, qui l'ont mis dans des luges, sur des skis, n'importe où, pour qu'il exerce, expérimente. Donc, il y a vraiment un impact fort des parents. Il faut, je pense, leur transmettre ça. Votre enfant, il faut lui faire vivre une panoplie d'expériences.
Bien, il suffit de venir au défi sportif puis de parler aux parents qui sont tellement fiers de voir leurs jeunes accomplir quelque chose, puis qu'ils les soutiennent là-dedans. Oui. Alors, c'est clair que l'impact des parents est majeur, mais est-ce que tous les parents sont en mesure de comprendre l'importance? Est-ce que tous les parents sont en mesure de pouvoir permettre à leurs jeunes de réaliser des activités? Les parents ne sont pas les parents uniquement, des fois, d'un enfant. Puis celui, dans le cas de Luca, je pense qu'il était enfant unique, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà.
Mais dans le cas de plusieurs autres enfants que nous, on a au défi, c'est clair qu'ils sont membres d'une fratrie. Il ne faut pas oublier la fratrie au travers de ça. Donc, il y a souvent, je dirais pas des pièges, mais il y a des embûches supplémentaires. Mais il faut voir le courage de ces parents-là, particulièrement au niveau du défi. Comment ils sont fiers de voir que leurs jeunes... Parce qu'il y a une question de continuité aussi. Au-delà de... Quand, en tant que parent, ce que tu souhaites, c'est que ton enfant devienne une personne qui va pouvoir être autonome.
Oui.
Et le sport, le loisir, aller au bout de son potentiel, ça permet aux jeunes de devenir des personnes autonomes. Donc, pour le parent, de respirer plus à l'aise par rapport à ce qui va se passer dans la vie de son enfant.
Oui. Le projet Choisir de gagner vise, j'imagine, autant les écoles régulières que des écoles spécialisées. Et j'imagine que l'approche au sport, à l'inclusion des sports, se fait différemment dans les deux types d'institutions?
Bien, c'est clair que pour nous, dans les écoles spécialisées, ils ont une tendance naturelle à venir participer aux défis sportifs. Puis je parle du défi parce que c'est un des événements qui leur est offert. Dans les écoles qu'on dit, nous, intégrées, bien, la situation est complètement différente.
Mm-hmm.
Premièrement, c'est rare qu'on a des jeunes qui provenant d'écoles intégrées qui viennent dans nos programmes.
Ouais.
Et souvent aussi, je vous dirais, les services qui peuvent être offerts aux jeunes qui, dans une école intégrée, particulièrement en région, peuvent être plus difficiles, je vous dirais, à rejoindre le jeune. Je pense, entre autres, au cours d'éducation physique, là, où notre équipe de l'EQTR, avec qui on travaille de façon rapprochée, ont pu faire une constatation dans 15 écoles réparties partout dans la province pour voir à quel point la situation des cours d'activité physique pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle peut s'avérer quelquefois très difficile. Donc, nous, c'est clair pour nous qu'il y a un travail à faire auprès des professeurs de sensibilisation, mais aussi de les équiper, de leur oui. montrer, de leur donner des outils pour pouvoir continuer à faire un meilleur travail auprès des jeunes. Mais ça commence avec l'idée que pour plusieurs jeunes qui ont une limitation, particulièrement ceux qui ont des TSA, ce qu'on appelle un trouble du spectre de l'autisme, qui sont dans des classes régulières, le professeur d'éducation physique n'est même pas au courant que le jeune est dans une situation particulière. Donc, on part de loin des fois.
Oui, puis j'imagine qu'on ne veut pas envoyer cet enfant-là à la bibliothèque ou faire une autre activité isolée. On veut qu'il pratique ce sport-là avec tous les autres jeunes.
On veut que le jeune fasse la même activité physique et ça arrive souvent, et l'étude nous l'a démontré, que les jeunes sont en situation d'aller à la bibliothèque plutôt que de faire l'activité physique. Lorsque vient le temps de faire du sport, il va souvent être mis à contribution comme marqueur ou comme arbitre, ou pour mettre les points sur le tableau. Ça arrive encore. Vous allez me dire, c'est un mythe, ça, ou c'est quasiment...
C'est
quasiment une mauvaise blague, mais c'est pas ça. Les gens de l'UQTR, lorsqu'ils ont fait le tour des écoles, c'est ce qu'ils ont constaté encore. Puis même dans le cas de ceux qui participaient effectivement au cours d'éducation physique, souvent, les jeunes étaient en situation d'isolement ou même en situation d'harcèlement. Alors, on a quelques problèmes à confronter.
Mais vous êtes là, du moins, pour continuer à promouvoir l'activité physique, les saines habitudes de vie chez les enfants qui vivent avec une limitation fonctionnelle et la promotion aussi au sein de leur famille. Pierre Morin, vous êtes le directeur du projet Choisir de gagner. Et c'est déjà la fin, ça passe vite quand on est bien accompagné, mais la bonne nouvelle, c'est que de façon bimensuelle, on pourra s'intéresser à ces jeunes-là et à la façon de comment les rejoindre pour leur parler de saines habitudes de vie. Merci beaucoup, M. Morin.
Un grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci, Kamal Salifou, à la régie, à la mise en onde. C'était Marianne Paquette au micro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur canalm.org. On est également présent sur Twitter et sur Facebook. Notre page s'intitule « C'est bon pour la santé ». Assez simple à retenir. Et toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. mpaquette@canalm.ca. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.